spectacle et plus. Soyez à l'écoute tous les dimanches à 20h au 88,3 FM ou sur profilprog.com. Profil, c'est 30 ans de découverte musicale.
Bonjour, ici Julianne Perrault. Voici votre bulletin du jeudi 26 février 2026. Avec la fin annoncée du programme de l'expérience québécoise, le non-renouvellement des permis de travail d'un millier de membres du personnel du réseau scolaire aura d'importantes répercussions sur les services aux élèves, avertissent le Syndicat canadien de la fonction publique et l'Association québécoise du personnel de direction des écoles. Selon Michel Poulain, président du secteur de l'éducation du SCFP Québec, alors que les services aux élèves sont dans un état précaire, il faut tout faire pour garder les travailleurs et travailleuses en processus d'immigration. Aujourd'hui a lieu le lancement officiel du photodocumentaire « Les impacts humains derrière nos règlements municipaux » présenté dans la vitrine du sous-sol de l'église Saint-Roch au cours du mois de mars. Ce photodocumentaire invite à réfléchir collectivement à la manière dont les règlements municipaux qui encadrent la gestion de l'espace public se traduisent dans le quotidien des personnes en situation de précarité. Un vernissage ouvert à tout le monde est prévu à compter de 17h à l'Engrenage Saint-Roch. Les 12 œuvres finalistes aux 3 prix littéraires remis conjointement par la Ville de Québec et le Salon international du livre de Québec ont été dévoilées hier. Décernées dans 3 catégories couvrant plusieurs genres littéraires, ces prix visent à mettre en lumière la vitalité littéraire et le talent d'auteurs et d'autrices de Québec et de Wendake. La liste complète des finalistes est affichée sur le site web de la Ville. Les lauréats et lauréates seront dévoilés le 24 mars lors d'une cérémonie à la bibliothèque Gabriel Roy. 5 œuvres éphémères intitulées « Les engins à souhait » font l'objet jusqu'au 17 mai d'un parcours artistique dans le quartier Saint-Roch. Conçu par ex-muro Art Public et l'artiste de Québec Fanny Giguère, ce parcours vise à redonner une place centrale à l'imaginaire et aux rêves dans les espaces communs du quartier, ainsi qu'à restaurer un sentiment de bien-être pour les personnes qui le fréquentent. Lumineux, invitant et accessible à toute heure, il crée des ondes chaleureuses et animées, enrichissantes, ainsi qu'une expérience pour la population comme pour les touristes. L'escalier Lavigueur reliant les rues Lavigueur et Arago-Est sera fermé temporairement du 2 mars au 3 avril 2026. Cette fermeture s'inscrit dans le cadre de travaux pour assurer la pérennité de l'escalier et la sécurité des usagers. Pendant cette période de 5 semaines, un trajet alternatif passant par la rue Lavigueur, la côte Badelard et la rue Arago-Ouest est proposé aux personnes qui empruntent cet escalier. C'est ce qui complète cette édition au nom de toute l'équipe. Bonne journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Toute simplicité. Ayant hérité de quelques acres de terre, un jeune homme de mes connaissances me dit qu'il envisageait volontiers de vivre comme je vivais moi, s'il en avait les moyens. Je ne souhaite en aucune façon qu'aucune personne adopte mon mode de vie, pour quelque raison que ce soit, car outre le fait qu'il se pourrait fort bien que le temps que cette personne apprenne à vraiment vivre comme je le fais, juste trouver pour moi-même un nouveau mode de vie. Mon vœu est qu'il existe en ce monde autant de personnes différentes que possible. J'aimerais au contraire que chacun mette grand soin à découvrir quel est le mode de vie qui lui convient en propre, puis à mener les actions nécessaires pour le mettre en pratique, plutôt que de copier celui de son père ou de sa mère ou de son voisin. Ce jeune homme peut bien construire ou semer ou s'en aller voguer sur toutes les mers du monde tant que rien ne l'empêche de faire ce qu'il me dit vouloir faire. Comme celle du marin ou de l'esclave fugitif, gardant le regard fixé sur l'étoile polaire, notre sagesse ne tient qu'à la vertu d'un cap mathématique, mais ce point de mire est un guide suffisant pour notre vie entière. Il se peut que nous n'arrivions pas à bon port en un temps calculable, mais nous nous efforçons de rester sur le bon cap.
Et je rêve à demain, à nos jardins de mots et de nos désirs. Que sera le monde qui vient? Tout semble parfois si lointain. Je pense et je rêve à demain. Thank you.
Alors, bienvenue à Toute Simplicité. Aujourd'hui, j'en avais parlé un peu la semaine dernière, on va parler du philosophe qui est malheureusement, du grand philosophe qui nous a quittés dernièrement, Thomas de Coninck, avec quelqu'un qui l'a bien connu, Jean Désy, qui a d'ailleurs fait une thèse avec M. de Coninck, qui a collaboré avec M. de Coninck. Donc, on va parler de Thomas de Coninck aujourd'hui. Avant ça, quelques petites annonces et lectures. Je vous rappelle qu'en fin de semaine, c'est la fête des semences à l'Université Laval, au pavillon des Jardins. Moi, c'est un événement que j'aime beaucoup. C'est un jalon psychologique pour moi au niveau de sentir que le printemps s'en vient. On va parler de jardinage toute la fin de semaine avec des jardiniers incroyables. Et aussi, pour ceux qui jardinent, ben, c'est le meilleur endroit pour acheter vos semences pour cet été. Alors, c'est toute la fin de semaine au pavillon des Jardins à l'Université Laval. Dans les lectures que j'ai retenues, il y a en kiosque actuellement le dernier numéro de Questions de philo, numéro 38, et il est consacré entièrement aux philosophes grecs, qui sont mes philosophes préférés. Et puis tout, alors si vous voulez vous initier à la philosophie grecque, tous les philosophes sont dans le magazine, dans le numéro, les philosophes grecs, dont évidemment Socrate, dont on va parler beaucoup aujourd'hui parce que M. Thomas de Coninck était, on pourrait dire, un élève de Socrate, disons-le comme ça, ou un disciple de Socrate. Ensuite de ça, deux petites lectures que j'ai retenues dans le Devoir cette semaine. Dans le Devoir de mercredi 25 février, la moitié des jeunes s'attendent à travailler davantage que leurs parents. Les Canadiens de moins de 35 ans sont pessimistes quant à leur avenir financier, révèle un nouveau sondage de la firme Corporators. Cela fait déjà un bon moment qu'on n'ose plus rêver de la Liberté 55. Pire encore, bon nombre de jeunes Canadiens, l'idée même de la retraite serait impensable, indique un nouveau sondage. Près de la moitié, 49 % des Canadiens de moins de 35 ans, s'attendent à devoir travailler plus longtemps. Maintenant, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, en fait, les jeunes s'adaptent à la réalité. On dit certains conscients que leur retraite pourrait arriver plus tard que celle de leurs parents, si elle arrive un jour, les jeunes choisissent de compenser en vivant leur vie active différemment de ce qu'ont fait les générations qui les ont précédées. Plusieurs d'entre eux, 38 % veulent notamment accorder une priorité au moment présent. Un exemple du changement de paradigme induit par les moins de 35 ans, 40 % d'entre eux se disent attirés par le concept de micro-retraite, c'est-à-dire de mettre sa carrière en suspens durant de courtes périodes intermittentes. Cet intérêt est motivé par la possibilité de voyager, de passer du temps avec ses proches et de favoriser sa santé mentale, rapporte le coup de sonde. Pour moi, c'est ça de la simplicité volontaire. C'est que dans le fond, ce qu'on voyait avant, les gens travaillaient toute leur vie. Certains avaient un travail qui les comblait, puis ça, c'est tant mieux pour eux autres, mais beaucoup travaillaient pour gagner leur vie et menaient une vie sans intérêt en attendant l'arrivée de la retraite. Et puis bien souvent, à la retraite, si tu n'as pas vécu toute ta vie, il est trop tard. Il faut vivre au moment présent ce que les jeunes font. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Et puis pour moi, c'est ça la simplicité volontaire, c'est vivre au moment présent. La vie, c'est au moment présent. Et c'est sûr qu'on a besoin de gagner sa vie, mais faut pas que ça prenne toute la place. Alors, je trouve ça intéressant. On a une vision différente de la retraite et peut-être qu'ils prendront, les jeunes prendront jamais leur retraite. Ils vont travailler toute leur vie, mais à faire quelque chose qu'ils aiment, à moins tout simplement miser sur l'aspect financier ou matériel, vivre simplement, puis une vie qui est plus motivante, intéressante. En tout cas, c'était dans le Devoir de mercredi, pour ceux qui s'intéressent. La moitié des jeunes s'attendent à travailler davantage que leurs parents. Et dernier article, c'est dans le Devoir d'aujourd'hui. L'amiral blanc, futur insecte emblématique du Québec, se rapproche du fil d'arrivée. Alors, ça fait 30 ans que les entomologistes travaillent là-dessus. Le Québec, on dit, le Québec fait un battement d'aile de plus vers la désignation de son insecte emblème. Mardi, les députés ont voté pour l'adoption du principe du projet de loi 496 visant à reconnaître l'amiral blanc, qui est un magnifique papillon. Il y a une belle photo là, du papillon dans Le Devoir, justement. Un papillon aux ailes noires rayées de barres blanches, rappelant les galons d'un officier de la marine en tant qu'insecte emblématique du Québec. Alors, ça fait 30 ans qu'on travaille là-dessus. Et on dit qu'aucune province canadienne n'a un insecte emblème. Mais 48 États des États-Unis en sont dotés. La Californie est le premier État américain à avoir adopté un insecte comme emblème en 1972. Alors, là, ça fait 30 ans que ça traîne. Là, j'espère qu'on va réussir à y arriver cette fois-ci. Futur emblème du Québec. Nous autres au Québec, on a le Québec compte parmi ses emblèmes naturels, le Harfang des neiges, qui est magnifique. On n'en voit plus beaucoup, malheureusement. Le bouleau jaune en 93, qui était adopté en 93. L'iris versicolore en 99, qui est, en fin de compte, on a l'oiseau, l'arbre, la plante, la fleur. Et l'amiral blanc en tant qu'emblème entomologique implique de modifier la loi sur le drapeau et les emblèmes du Québec. Alors voilà, c'est ma petite revue de presse d'aujourd'hui. Alors on prend une petite pause musicale et au retour, on va jaser avec Jean Désy de M. Deconinck.
La légèreté quitte un matin en sautant dans le premier train et pas sans même nous envoyer la main. Lorsque l'on arrive sur le quai pour tenter de la rattraper, on sait trop bien que le glas sonnait. Comme il faut aller quelque part, on regarde l'heure des départs dans le chaos et le bruit de la gare. On se retrouve sans qu'on comprenne à marcher avec plus de peine sous le poids de valises un peu plus pleines. Pour acquis, la légèreté n'est plus que nostalgie. Et on s'attarde de moins en moins aux beautés le long du chemin, à force de courir après le train. Alors avant que l'on s'épuise et que l'on perde nos balises, il vaut mieux parfois poser ses valises. Assis sur le quai pour regarder le train passer en retrouvant un peu de légèreté.
C'était les Cowboys fringants. La pièce est Train de vie de l'album L'Expédition. Avant ça, on avait eu Richard Séguin, Je rêve à demain. Et comme d'habitude, au début d'émission, je vous ai lu un extrait de Walden de Henri-David Thoreau. Alors, bonjour Jean.
Allô.
Alors, on va parler de Thomas de Coninck. Tu le connais bien. C'est pour ça que j'ai été invité. Tu le connais encore plus que je pensais, d'ailleurs. J'ai vu que tu avais différentes collaborations avec M. de Coninck, mais tu l'as connu en tant que directeur de thèse, entre
autres. C'est ça. Mon mémoire de maîtrise en philo, c'est sur l'irrationalité. Et j'ai eu la chance de rencontrer Thomas. J'ai fait quand même plusieurs années d'études en philo après avoir fini mon doctorat en littérature. Puis c'est le prof qui m'a marqué, c'est Thomas de Coninck. C'était extraordinaire d'être en classe parce que j'avais le sentiment, Thomas est un être remarquable, puis je dis pas ça pour... Ça me touche d'être invité de parler de lui, mais il m'a profondément touché parce qu'il était humble, mais il savait tout. Puis en même temps, on sentait dans tous ses cours que ce qu'il avait marqué, c'était la philosophie grecque. Les philosophes grecs, Platon autour de Socrate, Aristote, mais toute la pensée de Thomas qui s'est développée a été marquée par la philosophie grecque. Puis moi, je considère ça comme une chance parce que en préparant, mon premier mentor, ça a été Louis-Edmond Hamelin, le géographe qui a créé le mot nordicité. Puis je dois considérer que Thomas de Coninck a été mon mentor en philosophie. Il m'a reçu des dizaines de fois. J'ai pu travailler sur un essai qui s'appelle « L'irrationalité nécessaire » qui a été publié plusieurs années après. Puis, comme philosophe, on pourrait s'attendre à ce que, comme rationaliste, est-ce que c'est un philosophe rationaliste? Thomas était beaucoup plus large que simplement un philosophe qui croit à la valeur de la raison. Puis il m'a jamais pointé du doigt en disant « C'est quoi cette affaire-là là, sur l'irrationalité? » Il connaissait Carl Gustav Jung. En fait, Thomas... je pense que c'est un cadeau pour moi d'en parler. Là. Puis c'est extraordinaire que l'émission mette en évidence Thomas de Coninck. Il est décédé récemment, mais à mon sens, il ne mourra jamais. Il ne faut pas qu'il meure comme penseur, comme philosophe québécois, parce que la qualité de sa pensée est majeure. Il fait partie des grands, grands personnages du 20e siècle québécois.
Puis il a fait une culture philosophique hallucinante. C'était fabuleux de l'entendre.
Fabuleux.
Et il pouvait citer Platon dans tel livre de Platon. Puis,
par cœur.
Oh, c'était extraordinaire.
Il parlait en grec aussi. Là. Qu'est-ce qu'il disait? En fait, c'était impressionnant d'être là pendant des heures. Moi, des fois, je venais complètement, mais comme si j'étais en spectacle. Puis après ça, je lisais. Mais qu'est-ce que je retenais? C'était tellement vaste, ça allait tellement dans toutes les directions. Mais puis en même temps, fait avec une immense humilité. Puis jusqu'à récemment, j'écoutais Thomas très souvent à Radio Galilée. Il était interviewé par un de ses anciens étudiants. Et les instantanés de Thomas m'ont semblé, pendant des années, parmi les meilleures émissions de philosophie à Québec et au Québec. Très courtes, quelques minutes. Mais Thomas parlait avec un humanisme, avec une qualité de pensée. Et c'est fou comment tout ce qu'il a dit, je pense qu'il faut acheter ça, là, 100%. Il n'y a rien à remettre en question. Puis à ce moment-ci, dans un moment très difficile de notre histoire collective sur la planète, un penseur comme Thomas de Coninck doit être considéré.
Avant d'entrer dans le cœur du sujet, on va parler de... Entre autres, on ne pourra pas éviter de parler de Socrate. On va évacuer l'histoire, la légende qui est autour de Thomas de Coninck. qui disait qu'il était exagéré, mais qui a un fondement de vérité, que c'était le Petit Prince. Et si, d'ailleurs, si vous allez dans le Vieux-Québec, sur la rue Sainte-Geneviève, la belle maison des les de Coninck, le père de Coninck, Charles de Coninck, le père de Thomas, enseignait à l'Université de Laval dans le temps que l'Université de Laval était dans le Vieux-Québec. Et il y avait leur maison là, puis il y a une belle plaque, puis c'est écrit « Ici a séjourné Saint-Exupéry ». Et la légende, c'est que Thomas, M. de Coninck, Charles, c'était un ami personnel de Saint-Exupéry, ils correspondaient ensemble.
Puis ça, c'est vrai, ça, c'est pas une légende.
Ça, c'est vrai. Et il l'avait invité pour venir donner une conférence au Palais Montcalm. Saint-Exupéry est venu, puis il a passé une soirée, je pense, ou en tout cas quelques jours, une soirée, chez les de Coninck. Et il était beaucoup plus intéressé par les enfants que par M. de Coninck. Il a passé la soirée avec les enfants parce que en fait, il était en train de travailler sur Le Petit Prince à cette époque-là. Et il devait prendre des notes dans sa tête, puis Thomas de Coninck, c'était l'aîné dans le temps, il avait 7-8 ans.
Et il a passé la soirée avec Saint-Exupéry. Et Saint-Exupéry a écrit l'année d'après, a publié le Petit Prince, il est décédé l'année suivante.
Mais je trouve ça extraordinairement touchant d'entendre ça parce que, un, Saint-Exupéry fait partie des auteurs français du 20e siècle qui sont mes... Je fais lire Le Petit Prince de Saint-Exupéry depuis 25 ans dans mon cours de littérature là, chaque automne. Deux, Saint-Exupéry et Camus sont mes idoles. Troisièmement, d'associer Saint-Ex avec la famille de Coninck et cette espèce d'histoire. Est-ce que c'est vrai que Thomas de Coninck était sur ses genoux puis il a dit « T'es mon petit prince ». Thomas a écrit un texte remarquable de 8 pages. Il a donné une conférence un jour que j'ai entendue dans une salle, je pense que c'était au studio P, mais c'était extraordinaire. Est-ce qu'il dit « C'est moi la légende, c'est moi le petit prince, jamais de la vie ».
Non.
Mais en même temps, qu'est-ce qui est important, c'est qu'il y a des liens à faire entre la vision de Saint-Ex, les rapports de Saint-Ex à la littérature et au Québec, le fait qu'il soit dans la famille de Coninck à un moment donné, puis que Thomas, toute sa vie, était tout content de parler de Saint-Ex. Voici, est-ce que Saint-Exupéry est un grand philosophe? Moi, je trouve que l'œuvre de Saint-Ex, comme l'œuvre de Camus, sont des œuvres majeures de littérature, extraordinairement philosophiques, selon moi. Mais là, j'arrête là mes points de vue subjectifs. Là. C'est que faire un lien entre Thomas de Coninck, sa philosophie, son enseignement, sa présence humaniste au Québec, et Saint-Ex, un immense, immense écrivain. Puis le Petit Prince de Saint-Ex, là, je veux dire, c'est un des seuls livres francophones traduits dans toutes les langues du monde, même en inuktitut. Oui. Je veux dire, c'est fou, là. Un conte. Moi, je passe toujours 5 heures chez moi dans le bois à la fin du cours. On passe toute la journée autour de Saint-Ex et du Petit Prince avec 10, 12, 15 étudiants. Là, faut le faire.
Puis M. de Coninck, ce qu'il disait, il disait, non, c'est pas moi, le Petit Prince. Le Petit Prince, c'est Saint-Exupéry. C'est lui qui s'est mis dans le Petit Prince. Sauf que ce qui est fascinant, c'est là que la légende, est, c'est que le Petit Prince ressemble étonnamment à M. de Coninck quand il était tout petit. C'est là que la légende... Et puis, probablement, il prenait des notes, ça a dû l'inspirer un peu d'être avec les enfants, mais... Ça s'arrête là. Monsieur de Coninck, je pense qu'il trouvait un peu exagéré là, toute cette affaire-là.
Ben, ce que j'aimerais dire, puis ce que je dis à mes étudiants, nous sommes tous éventuellement ou potentiellement des petits princes. Et le conte, le Petit Prince, Saint-Ex, est un des chefs-d'œuvre du 20e siècle, pas seulement en français, des chefs-d'œuvre de la littérature, point. Et les plongées qu'on peut faire lorsqu'on on décide de réfléchir à ce conte si banal en apparence, c'est fort. C'est que là, dans le fond, où se trouve la vraie vérité entre Thomas, son père, Saint-Ex à Québec, ça n'a pas autant d'importance que le fait que quelque part, ce matin, on peut dire, entre Thomas de Coninck et la figure du Petit Prince et Saint-Exupéry lui-même, il y a des liens.
C'est une belle histoire. C'est une belle histoire.
C'est une belle histoire. C'est suffisant. Parce qu'après ça, on peut avancer. C'est qu'à ce moment-ci, dans l'histoire du monde, si le Petit Prince était lu à tous les jours pendant 6 heures dans toutes les radios, toutes les télévisions, puis qu'on enlevait la photo du Petit Prince, je pense que ça pourrait faire du bien au monde entier.
Oui, c'est magnifique. En tout cas, si vous avez la chance d'aller dans le Vieux-Québec, sur la rue Sainte-Geneviève, ça quand même, ça donne une belle impression de voir cette plaque-là, ici, ces journaux. Antoine de Saint-Exupéry. Puis c'est beau, hein? C'est la rue Sainte-Geneviève, on a une vue sur le fleuve, c'est un coin du Vieux-Québec qui est magnifique, là. Alors, voilà. Fait qu'on va, là, on va prendre une petite pause, puis là, on va entrer dans... Faut parler de philosophie un peu, là. Fait qu'on va entrer dans le cœur du sujet, on prend une petite pause musicale.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Split the night
the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell, echoing the wills of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering sounds of silence.
Un grand classique des années 60. Avec, vu qu'on parle de M. de Koenig, c'était son époque, les années 60. Simon and Garfunkel, The Sound of Silence, qui est une magnifique chanson.
Un
chef-d'œuvre. Alors, Jean, je voudrais qu'on on va casser la glace, là. On pourrait parler de son livre, La Nouvelle Ignorance. Quand M. de Koenig parle utilise le mot ignorance, ça réfère à Socrate. Socrate qui disait, il y a juste une chose que je sais que je sais rien. C'est l'ignorance de Socrate qui a beaucoup de profondeur derrière ça. Puis c'est, en fin de compte, c'est mon philosophe préféré, Socrate, c'est que c'est l'humilité, c'est qu'il faut se souvenir que c'est la condition humaine d'être ignorant. Mais ce qu'il disait, Socrate, il disait, ce qui est crasse, c'est la double ignorance. C'est d'ignorer notre ignorance. Il dit être ignorant, il n'y a rien de mal là-dedans, c'est la condition humaine, on n'en sortira pas. Sauf les sages, puis il disait, essayez pas de devenir des sages, Socrate, vous ne serez pas capable. Il disait, devenez philosophe, c'est-à-dire amant de la sagesse. Alors, c'est magnifique, c'est vraiment beau.
J'aime ça beaucoup parce que parler de la nouvelle ignorance, c'est le sous-titre, c'est le problème de la culture, de Thomas, qui était publié en l'an 2000. Ce que je trouve extraordinaire, puis j'ai un petit frisson, là, c'est qu'à ce moment-ci, le 27 février 2026, ça a toute sa pertinence. Je l'ai lu à quelques reprises, je vais le relire, j'ai tout lu Thomas de Koenig, mais en fouillant un petit peu, en me préparant, c'est extraordinaire comment la parole de Thomas, dans des essais comme La Nouvelle Ignorance, était visionnaire, avait du sens grâce à l'appui avec Socrate, c'est tout à fait correct, tout ce que tu dis autour de sa référence à Socrate. Le gnauti seauton, le connais-toi toi-même, est essentiel face à l'ignorance. Mais ce qui me bouleverse, c'est qu'on vit des moments sur la planète depuis quelques mois, quelques années, particulièrement à cause des médias sociaux et particulièrement à cause de l'intelligence artificielle qui met la planète humaine en danger d'une nouvelle ignorance majeure. C'est comme si Thomas, si on le relit... J'arrête là, mais quelque part, quiconque veut avoir une parole québécoise, c'est publié aux presses universitaires de France, là, d'un philosophe qui est avant-gardiste. Si on peut lire George Orwell, si je fais lire mes étudiants en Arendt là, sur le totalitarisme, la parole de Thomas me semble extraordinairement pertinente à tout point de vue. Il n'y a rien à redire sur cet essai-là pour ce qui est dans le moment contemporain. C'est fou. Donc voici ce que je commence à avoir envie de dire. Voici un réel chef-d'œuvre de la littérature québécoise, publié il y a 25 ans, mais qui va avoir encore sa place il y a 25, dans 25 ans ou dans 100 ans, ce qui n'est pas très fréquent. Pierre Vadeboncœur écrit des livres remarquables, mais Thomas, à ce moment-ci, c'est essentiel de dire et de redire, voici une pensée québécoise, mais mondiale, universaliste, fondée sur Socrate et Platon, mais wow! Là, ça fait du bien parce que le moment présent n'est pas facile.
Non, puis M. de Coninck, ce n'est pas un philosophe superficiel.
Non.
On pourrait dire que c'est un radical. Il allait à la racine des choses.
Tout à fait. Mais profondément humble et humaniste. Et aussi, moi, je l'ai vu lors de ses émissions à Radio-Galilée. Il n'a jamais dit très, très fort, mais un croyant. C'est certain que, est-ce qu'on doit insister là-dessus, ça joue dans sa vision du monde, très influencé par la pensée grecque antique, mais quelque part, là, on sent que l'humanisme de Thomas de Coninck est associé à une vision spiritualiste évidente.
Oui, bien, entre autres, je pense que c'est beaucoup Platon. Quand Platon était un peu religieux, ses bords, là, malgré que, en principe, quand on parle de philosophie, on n'est pas supposé de parler de religion. Parce même Bouddha disait, « Perdez pas votre temps avec Dieu, c'est en dehors de la capacité de la compréhension humaine. De toute façon, on n'a pas besoin de Dieu pour être illuminé. »
C'est tout à fait juste. Mais il reste quand même que l'humilité fondamentale d'un personnage aussi puissamment brillant que Thomas de Coninck me semble associée à cette envie de partager, mais dans la pauvreté. Tiens, j'ai envie de... Je peux peut-être lire un petit paragraphe dans les premières pages de La Nouvelle Ignorance. C'est « Aucune époque n'a accumulé sur l'homme des connaissances aussi nombreuses et aussi diverses que la nôtre. » Ça, c'est en 2000. Aucune époque n'a réussi à présenter son savoir de l'homme sous une forme qui nous touche davantage. Aucune époque n'a réussi à rendre ce savoir aussi promptement et aussi aisément accessible. Aïe, pour moi, il prédisait qu'il arriverait ChatGPT un jour. Mais aussi, aucune époque n'a moins su ce qu'est l'homme. Ses propos de Heidegger faisaient écho à ceux de Scheller, si souvent cités, et pour cause, entre parenthèses, jamais dans l'histoire telle que nous la connaissons, l'homme n'a été autant qu'aujourd'hui un problème pour lui-même. Fascinant, là. C'est Thomas qui cite Heidegger. Les anthropologies scientifiques, philosophiques, théologiques font preuve d'une entière indifférence réciproque. Je finis. En outre, si précieuses qu'elles puissent être, les sciences spéciales, toujours plus nombreuses, qui ont trait à l'homme, voilent son essence plutôt qu'elles ne l'éclairent. Il manque l'unité que seul peut donner le concret. Aïe, aïe, ça, c'est quand même fascinant, là. Peut-être un peu de stock, là, mais moi, en tout cas, je le lis à mes étudiants lors du prochain cours parce que c'est trop fondamental, ce rapport au concret, ce rapport à l'air froid, parce que le danger majeur, c'est cette espèce de déshumanisation proposée par un monde artificiel, d'intelligence, entre guillemets, mais qui nous dit « Soyez irréels, chers humains. On va venir à la planète pour vous. » J'arrête là, mais c'est fou comment lire Thomas de Coninck, en parler, c'est se rassurer, oser dire « Réfléchissons donc, en toute simplicité, mais continuons à réfléchir depuis Socrate. » Avant Socrate aussi, il y avait des pré-socratiques qui réfléchissaient, là, mais croyons-y.
Oui, bien, entre autres, il a écrit sur l'éducation beaucoup, Thomas de Coninck. Puis là aussi, il est assez radical. Il est comme un peu paradoxal, parce que d'un côté, il encourage les jeunes à faire des études, puis il était vraiment... Je trouve que c'est totalement logique de dire ça. Mais d'un autre côté, il disait, mais... l'école remplit pas son rôle. Il disait... D'abord, le début de la philosophie, c'est l'étonnement, l'émerveillement. C'est ça qui devrait être le cœur de l'éducation, cultiver l'étonnement, l'émerveillement. Puis on l'a pas, les jeunes vont à l'école, ils ne comprennent pas ce qu'ils font là.
C'est fondamental. Moi, j'ai beaucoup d'amis profs. J'ai ma fille qui enseigne les maths au secondaire, puis une autre fille qui enseigne la musique au primaire. Là. C'est évident pour les profs qui ont la vocation... que l'émerveillement et l'étonnement sont fondamentaux si on veut que l'enfant de 8 ans ou de 15 ans soit là. Moi, j'ai mes flots, ils ont 19 ans, là, puis c'est certain que ça s'appelle « Étonnons-nous, discutons ». Puis là, on a le droit de ne pas être d'accord tous, là. Puis ils viennent de lire Primo Levi, c'est un homme, là, un récit de vie à Auschwitz, là. Puis il y en a qui ne trouvent pas ça drôle, là, puis ils sont un peu tannés d'entendre parler d'Auschwitz, mais Étonnons-nous, c'est fondamental, c'est tout à fait juste.
C'est la philosophie commence avec l'étonnement, c'est le questionnement. C'est pourquoi c'est comme ça. Puis les enfants sont... On dirait que ça meurt avec le temps. Les enfants vont dire pourquoi la neige est froide. Tu sais, tu penses.
Excellent.
Personne va dire pourquoi la neige est froide. Ça prend juste un enfant de 3 ans pour dire pourquoi
ouais,
la neige est froide.
Oui, poète.
Alors, ça, c'est de la philosophie.
Ben, en tout cas, la poésie, à mon sens, est très philosophique aussi. Quand la poésie se penche. Ah, comme la neige a neigé, ma vie est un jardin de givre. Oh! C'est presque banal ce que je viens de dire là, mais voici l'interrogation sur la froideur de la neige.
Oui, alors c'est ça l'étonnement, c'est la base de la philosophie. M. de Conin, qui est, entre autres en tant que socratique, et lui parlait beaucoup de l'étonnement, là, l'importance de l'étonnement. C'est vraiment beau.
Oui, bien c'est fondamental,
oui.
Plus que le reste, plus que les seules connaissances rationnelles. Puis une fois se dit, jamais moi, comme médecin, je nierais la valeur de l'invention du taco qui permet de diagnostiquer une tumeur d'un centimètre dans le cerveau.
Oui.
Puis après ça, il y a des chirurgies extraordinaires qui peuvent se faire. Jamais je nierais cette valeur de la technoscience triomphante. Mais est-ce qu'enlever une tumeur dans le cerveau, c'est soigner? Non. C'est guérir la tumeur, mais le soin est beaucoup plus vaste que la seule guérison technoscientifique. Ça, j'en ai parlé avec mes étudiants, ma conviction profonde, soigner, c'est accompagner, soigner, c'est aller jusqu'à la mort, puis soigner, c'est accepter la vision philosophique de Socrate ou de Thomas de Coninck. Là, on est dans le monde du soin, et c'est beaucoup plus large que seulement dire « Ah, ta jambe cassée en 3 morceaux, le robot, il va te mettre des plaques. » Je caricature, là. Vous me suivez? Jamais de ma vie, je veux nier que la technoscience soit curative, mais le soin dépasse le seul corps. En fait, moi, ce que j'aime avec Thomas, c'est que j'ai compris que le mot « amour » est trop restrictif en français. Et grâce à Thomas, dans La Nouvelle Ignorance, c'est là-dedans qu'il dit... non, c'est dans La Dignité Humaine. En 1995, c'est là que j'ai appris qu'il y avait 4 mots pour nommer l'amour en grec. Le mot de l'amour le plus divin, c'est « agapan ». Après ça, il y a l'amour storgé, c'est l'amour pour son auto. Il y a l'amour philia, l'amour pour les autres et ses frères et ses parents. Il y a l'amour éros, l'amour érotique, passionnel. C'est intéressant parce qu'il y a une extra différence entre agapan, agapé, le mot charité. On sent que j'utilise le mot agapan plus que jamais parce qu'en français, on sent que c'est pas la même chose aimer son skidou. Aimer un oiseau, puis aimer un être qui a besoin d'aide, puis qui sent mauvais. Je veux dire, on sent que là, Thomas, c'est le premier qui m'a permis de faire comprendre grâce aux Grecs. Je veux dire, puis voilà, c'est que le mot agapan est fondamental dans le monde des soins. J'enseigne ça. Je cite souvent, j'ai dit, c'est Thomas qui, dans un livre, La Dignité Humaine, c'est publié en 95, là, aux Presses universitaires de France, mais... ça m'a marqué à ce point que je l'ai retenu, puis je trouve que ça vaut la peine. Puis est-ce que je finis là-dessus? Est-ce que l'univers contemporain de 2026 est pour fonder sur l'amour storgé, aimer son char, aimer son ordinateur où là, il y a des avatars qui nous font des avances sexuelles? Je caricature. Attention au délire, aux dérives majeures. Gardons pied dans cet amour gratuit. Pour le monde, le cosmos, comme les autres, comme les pauvres. Sinon...
D'ailleurs, je m'intéresse beaucoup à ça ces temps-ci, c'est que les historiens sont en train de revoir l'idée d'évolution humaine, puis ils se posent la question, est-ce qu'on n'est pas en train plutôt de se détériorer à mesure qu'on avance? Et moi, j'ai comme une théorie personnelle à vérifier, là, mais quand on regarde les peintures rupestres dans les grottes de Lascaux, là, puis là, il disait, oh, c'est de la... Moi, je ne pense pas que c'était de la chasse. Là. C'était de l'émerveillement. C'est que quand tu es éveillé, émerveillé, tu regardes une bête passer, puis tu trouves ça fabuleux. Et je pense que nos ancêtres, ils vivaient dans l'émerveillement. Et on c'est comme le restant, ça s'est effacé. Puis les gens voient un oiseau aujourd'hui, puis...
Ah, j'aime ça beaucoup parce que c'est une longue, longue conversation qu'on pourrait avoir. Mais je trouve ça tellement extraordinaire ce que tu dis. Moi, j'ai eu la chance d'avoir travaillé pendant des décennies dans la toundra, dans le monde inuit. Je les ai connus en 90 quand il y en avait des gens de 80 ans qui avaient vécu toute leur vie jusqu'à 10 ans avant dans des igloos. Ce qui est dit au sujet de l'émerveillement, les Inuits ont survécu grâce aux animaux. pas parce qu'il y avait des jardins là, en toundra. Là.
Oui.
Il était 100% carnivore. Là, il n'y avait pas de plantes médicinales.
Oui.
Mais tous les Inuits, dans l'histoire Inuit, ont toujours été émerveillés par, mettons, un caribou. Parce qu'il n'y a pas toujours eu du caribou. Quand il y avait du caribou, cette espèce de prière à genoux en remerciant le caribou d'exister.
Oui, il les aimait, les animaux.
Aimer le caribou en disant merci. Puis en tuant le caribou, ben, en mangeant tout le caribou, même si c'est beau, en mangeant les yeux, en disant merci beaucoup de sauver ma vie. C'est que il y a quelque chose qui semble paradoxal.
Puis moi, je pense que c'était plus que ça. C'était peut-être. Merci d'être si beau.
Merci d'être si beau, oui, ben, merci d'être plus beau que moi, mais tu me sauves la vie parce que moi,
parce
avec
que les
mon
animaux
harpon,
sont beaux. Sont...
Ben voyons, c'est que là, puis dans la culture inuit, si nordique et si difficile pour survivre, il y avait 1000 Inuits en 1950 dans tout Nunavik, là, le tiers du Québec. Là. Sans ce rapport d'étonnement, émerveillement, amour réel, puis en même temps, c'est pas parce qu'on le trouve beau, c'est pas parce qu'une bernache, on la trouve pas extraordinairement belle, qu'on n'acceptera pas de l'abattre pour la manger. Mais en la mangeant, on la mange avec une espèce d'immense...
Respect.
Plus que du respect. Mmh. Un réel amour. Manger une bernache au complet, puis en même temps, pour un Inuit, ce qui est l'horreur, c'est de tuer un caribou, puis de prendre les deux fesses, ou bien de tuer un caribou pour le panache. Ça, c'est comme une faute grave.
C'est
tout change maintenant, là, mais le sacré de l'animal fait en sorte que tu survis. Mais en même temps, ça semble paradoxal, puis on devrait dire... Soyons végétariens, oui. Je pense qu'en Inde, on peut être végétarien. Dans le Québec, je dis ça aussi, mais je regrette. Dans le monde Inuit nordique, où il y avait de la neige 9 mois par année, il n'y avait pas de végétarien possible.
Sauf qu'il faut avoir du respect. C'est ça.
L'amour.
L'amour. Puis
du respect.
C'est pas juste de la viande, c'est un être vivant.
Tout à fait.
Puis qu'on doit réaliser que c'est un être comme nous, là, qui meurt pour nous. Là.
Oui,
c'est
oui.
quelque chose. Là.
Puis dans la culture Inuit, là, je veux dire... Il y a des hommes qui s'appelaient Nanook parce qu'ils étaient à la chasse à l'ours blanc. Ils tombaient dans un trou. L'ours les mangeait. Puis quand l'ours sortait du trou, il devenait un homme. Puis l'homme s'appelait Nanook. Donc, ça fait partie de la mythologie inuite. Ça. C'est intéressant, ce rapport d'âme où il y a des hommes, il y a des êtres qui portent le nom d'un animal parce que les échanges entre animaux et humains sont extraordinairement fertiles. Mais là, je parle de quelque chose qui a existé jusqu'à hier récemment. Tout change, moi, dans le monde
Mais
inuit.
Mais moi, je pense que les ancêtres paléolithiques, parce que les Inuits étaient... presque encore un peu...
Tout à fait.
Dans le monde paléolithique, ils vivaient dans l'émerveillement. Puis je pense que les peintures, c'est pas des affaires de chasse, c'est des affaires d'émerveillement. Moi, ça, c'est mon opinion personnelle.
J'acquiesce complètement, puis je dirais... j'ajouterais, ils mouraient dans l'émerveillement aussi.
Puis
c'était vraiment facile de mourir à moins 42 quand tu tombais à l'eau puis tu étais à la chasse aux phoques. Mais mon admiration profonde pour le monde inuit québécois, là, les Inuits du Nunavik, fait en sorte que j'ose dire ça. Puis ce que j'ai lu des Inuits, puis il y a des romans inuits qui sont écrits récemment. Voici une culture chez nous, dans la province, qui est tellement extraordinaire. Puis là, bon, on peut faire référence au paléolithique, parce que jusqu'en 1930, là, les Inuits chassaient avec des harpons.
On était dans le paléolithique. En tout cas, moi, je trouve ça intéressant, cette idée-là, qu'on ne réalise pas, mais on s'imagine évoluer, mais techniquement, on évolue, mais humainement, on régresse peut-être, je pense.
Peut-être qu'en lisant Thomas... En lisant Thomas, puis en lisant d'autres philosophes, puis en relisant Platon avec Socrate, on peut peut-être commencer à dire « battons-nous pour empêcher cette espèce de régression ». Mais tu sais, j'arrête là, mais j'ai l'impression qu'en Europe, en 1939, quand la Deuxième Guerre mondiale a éclaté, il devait y avoir des millions de personnes qui devaient se dire « c'est quoi qui se passe là? C'est quoi cette horreur? »
C'est ça.
Puis l'Europe, et l'Europe qu'elle est maintenant, là, mais il y a quand même des moments... extrêmement pénible dans toute l'histoire humaine. Ouais. Les humains doivent avoir l'impression qu'il y a une nette régression à tous les niveaux.
Ben, pour revenir à M. de Coninck, alors c'est ça, lui, il a parlé, on vient d'en parler, la beauté, il a écrit là-dessus, la dignité, ça c'est dans ses grands thèmes, en fin de compte, l'ignorance, la nouvelle ignorance, ou l'ignorance socratique, ça revient beaucoup dans ses écrits. Des grands, grands thèmes. Puis l'éducation, qui est dans ses grands thèmes aussi, que M. de Coninck nous a laissé. Là.
C'est vraiment intéressant parce que je réalise que j'ai tout lu ce que j'ai pu de Thomas. J'ai eu la chance de le connaître, de le côtoyer comme étudiant. Puis après ça, je l'ai écouté, puis je l'ai lu, puis j'ai publié « L'irrationalité nécessaire ». C'est dédié à Thomas, là. Il m'a fait une préface chez XYZ. Mais c'est certain qu'à ce moment-ci, ce matin, je réalise à quel point la lecture, la relecture des œuvres, de la pensée de Thomas de Coninck n'est pas négligeable du tout. Au contraire, c'est comme si ça gardait toute sa prééminence. Je veux dire, c'est dingue comment à ce moment-ci, dans notre histoire, ça peut être extraordinairement fertile.
Pertinent
comme jamais. C'est ouais. Que voici que la dignité humaine, c'est en 1995. Là. Hey, ça fait 30 ans.
Ouais.
J'ai envie de lire un petit passage d'Aurélien pour la dignité, si tu me...
Oui, c'est si un autre de ses thèmes. Je ne l'ai pas suffisamment mentionné. La dignité, c'est tellement important. Là, c'est...
Puis, il fait allusion à moi. J'ai fait lire dans mon cours Primo Levi, c'est un homme qui a une année de vie à Auschwitz, là, d'un jeune pharmacien de 20 ans. Là, il dit « Le crime contre l'humanité germe dans les cœurs, dans les concepts et les mots avant de passer aux actes. Il faudrait être bien naïf ou niais pour douter encore de nos jours de l'impact de la pensée ou de ce qu'on fait passer pour de la pensée sur l'agir humain. La question d'Adorno doit être sans cesse posée à nouveau. Comment pense-t-on ou ne pense-t-on pas, après Auschwitz, certes, mais aussi avant? » Fascinant, hein? Comment l'humanité dont a pensé avant Auschwitz, a pensé pendant l'existence d'Auschwitz et des camps de concentration? Il y avait 150 camps de concentration en Europe, là, autour de l'Allemagne nazie. Et après Auschwitz, c'est comme si... C'est fascinant, ce questionnement majeur. Puis là, ben, on est dans un recueil, un essai sur la dignité humaine, aïe aïe. Puis là, Auschwitz semble passer date. C'est un anglicisme, excusez-moi. Mais l'IA actuelle, là, génératif et l'autre, l'agentique, là, me semble des nouveaux totalitarismes fascinants qui n'ont rien à envier ou qui sont pas moins majeurs que le totalitarisme nazi ou soviétique.
On va prendre une dernière petite pause musicale, puis après ça, on va être obligé de conclure l'émission. Alors, dernière pause musicale. Malheureusement, tu es obligé de couper ça parce qu'on va avoir quelques temps, quelques minutes pour conclure. C'était Jean-Sébastien Bach, concerto numéro 4, Allegro. Toujours magnifique. Alors, j'aimerais ça peut-être, je ne sais pas, tu, évidemment, tu es au courant du manifeste. Je trouve, il y a M. de Coninck a publié un manifeste, en tout cas, il a dirigé, Thomas de Coninck, Jean-François Raymond, qui s'intitule « Beauté oblige ». Écologie et dignité. On a toutes les thématiques de Thomas de Coninck là-dedans. Il dit en un mot, la beauté qui oblige ne se limite pas à la beauté de la nature, mais décrit bien plus encore la beauté des actions visant à la sauver. la beauté en question est la beauté dite morale, dont relève notre responsabilité de protéger. Il n'est pas excessif d'affirmer que le défi écologique répond de manière unique à la quête d'idéal, bref, de la beauté morale, si essentielle à la jeunesse, mais aussi à la société tout entière. Toute une phrase, hein?
C'est extraordinaire.
Oui.
C'est extraordinaire parce que c'est comme si c'est un... plus qu'un résumé, c'est une phrase majeure qui fait que si on n'aime pas la nature, avec agapane, sur le mode agapane, la nature va continuer à se détruire. C'est pas seulement en décidant d'enlever le CO2 dans l'espace. Ça joue, mais c'est comme si, depuis quelques décennies, l'humanité démontrait des signes de non-amour pour le reste du monde, et même pour les humains, mais pour le reste du monde, pour les oiseaux comme pour les mers, etc. Ce texte-là, cette parole-là de Thomas, est fondamentale pour tout esprit véritablement écologique. Je veux dire, la simplicité volontaire est majeure dans l'écologie. Mais si on cesse d'aimer un oiseau qui passe devant chez soi, ben là, on s'en sac si l'oiseau meurt, mais s'il ne peut. Je veux dire, il y a eu 5 milliards de moins d'oiseaux en Amérique du Nord dans les derniers 10 ans. Là. Pourquoi? Pour des raisons de non-amour, ça je vais vite, là, mais c'est certain que toute la pensée de Thomas m'a marqué. Et je m'en étais pas, j'avais oublié à quel point elle continuait de me marquer et qu'il n'y a rien à redire là-dessus. Là.
Ça, pour ceux que ça intéresse, c'est un beau petit, c'est un petit ouvrage, là, il y a une centaine de pages. Là. Ça s'appelle Beauté oblige, écologie et dignité. C'est un manifeste. Puis c'est vraiment un beau texte. Il est très riche et ça, c'est très proche de l'encyclique du pape François, qui malheureusement, un autre qui vient de partir, notre pape écologiste, le seul pape écologiste ouais. qu'on a eu, qui avait choisi François comme nom en lien avec Saint François d'Assise, qui est le patron des écologistes. D'ailleurs, Thomas de Coninck, il utilise l'expression du pape François, notre maison commune. Mmh. Il l'utilise dans le manifeste. Il y a comme une parenté un peu.
C'est vraiment intéressant de faire des liens entre la parole du pape François écologiste, très marquée. Il faut lire ses encycliques qui sont presque dérangeantes pour le commun du mortel. Puis que Thomas fasse un clin d'œil. En tout cas, ces liens-là me semblent extraordinaires. Il y a des personnages majeurs dans l'histoire de l'écologie, là. Puis ce moment-ci, moi, j'aurais envie de dire applaudissons à Greta Thunberg.
Il était très contesté, là. Il a brassé la cage, pape François, là. Je pense qu'il allait plus loin que qu'est-ce qu'il était capable d'absorber là, au niveau de l'Église. Là.
Ah, tout à fait.
Mais il était audacieux, en tout cas, il faut y donner ça.
Mais je pense qu'il faut... ça me touche que dans une émission de radio, on ose citer la valeur de la parole d'un pape comme pape François, hors religion, comme homme, qui dit « Osons croire à l'amour de la nature par-delà même du simple humain. » Je vais vite, là, mais je déforme. Je pense pas déformer. Oui, je pense que c'est ce que Thomas dit. La dignité, c'est aussi... Thomas aussi parle avec qualité de cette espèce d'amour obligatoire pour les pauvres, pour l'univers du pauvre, pas seulement du riche, et que finalement, la dignité humaine est révélée par cette attention qu'on a pour les pauvres, les plus démunis, les plus exsangues. Sinon, c'est comme un monde triomphant qui va dans une seule direction. Tu sais, je vais être pas fin, là. L'avenir de la planète dépend pas du fait qu'on soit un jour sur la planète Mars en petite gang pour faire un party. Je regrette. C'est pathétique.
Puis Saint-François d'Assise, à quelque part, il reflétait la pensée du paléolithique. Il disait « Quand mes frères, les animaux... Les rivières, je ne sais pas, ma sœur, la rivière, je ne sais pas trop. Les Premières Nations, c'est resté, ils disent, je ne sais pas s'ils réalisent quand ils disent c'est nous le territoire. Dans le fond, c'est que c'est pas que le territoire leur appartient, c'est que c'est eux autres, ils s'identifient au territoire.
Ah, c'est fondamental. Ça, ma joie profonde, moi, d'avoir connu les Innus, les Cris et les Inuits, c'est d'avoir été sur un territoire, dans un territoire, qui, lorsque je suis là à pied, moi, quand j'étais en expédition entre Havre-Saint-Pierre et Blanc-Sablon, j'étais chez moi. C'est pas à moi, mais dans l'univers autochtone nomade, t'es toujours chez toi quand t'es quelque part. Quand tu t'en vas, t'es plus chez toi. C'est que le territoire est à tout le monde. Ça, c'est à l'opposé d'une vision capitaliste privatisée, qui dit, c'est à moi, je l'ai acheté. Non, non. Le territoire est à celui et celle qui l'habite. temporairement. Puis est-ce que tu es là pour 25 ans? En général, les nomades sont là pour 25 jours, 25 heures. C'est intéressant, ça, ce rapport. Puis en même temps, c'est ce qu'ils nous apprennent. Puis il y a plein de non-autochtones qui vivent sur ce registre-là au Québec, mais c'est fondamental. Donc, entre la pensée de Saint-Augustin, et pas Saint-Augustin, mais Saint-François, la parole du pape François, ce que Thomas nous révèle, il y a des liens à faire.
Des parentés évidentes.
Ben, des parentés évidentes, mais je ne suis pas certain qu'à ce moment-ci, c'est de ce dont on parle le plus.
Non.